France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, notre rendez-vous dominical dédié à l'histoire, la foi et la spiritualité. Nous allons nous intéresser à une voix singulière qui a porté la défense de la mémoire arménienne pendant des années, des décennies. Je veux citer Anaïde Terminassian, une personnalité hors norme, lumineuse, attachante que nos auditeurs ont bien connue. Anaïde m'ayant mis le pied à l'étrier il y a 10 ans lorsque je reprenais cette émission dans la foulée de Jean-Pierre Anquiri. Une émission qui trouve encore plus son public dans les temps troublés que nous traversons. Vous êtes nombreux à nous écouter chaque dimanche. Pour évoquer ce souvenir, mais plus encore ce que représentait l'obstination de sa recherche, je suis avec Taline Terminassian, historienne, sa fille aussi. Un livre est sorti, celui de ses chroniques, revue de presse plus particulièrement diffusée entre 1980 et 1982 dans le cadre de Radio Forum, l'une de ses nombreuses antennes dites Radio Libre à l'époque qui avait donné une place, et c'était une première, et c'est là notre sujet, aux Arméniens de France. Radio Forum 1981-1982, chronique d'une voix libre aux éditions Tadé. Bonjour Taline.
Bonjour Sébastien.
Alors nous allons commencer notre entretien par évoquer la figure de votre mère pour rappeler en quelques phrases quelle a été son importance en tant qu'historienne par rapport à la redécouverte du champ des études arméniennes.
Enfin, la redécouverte, ou plutôt l'invention du champ des études arméniennes, je précise, contemporaines, dans le cadre, dans le contexte de l'historiographie française. Là, je pense ne pas me tromper en disant que Anaïde a en effet fondé ce champ historiographique, à l'image peut-être, en réduction en quelque sorte d'un autre géant fondateur qui a été aux États-Unis, Richard Hovhannissian, qui était le grand spécialiste récemment disparu de la Première République. Et donc, en langue française, Anaïde, qui se définissait elle-même fort modestement comme une petite historienne, a en effet fondé ce champ historiographique en publiant non pas une thèse qu'elle n'a jamais écrite, mais de grands articles et de grandes études très extrêmement fouillées consacrées à l'histoire contemporaine des Arméniens et en particulier au mouvement révolutionnaire du 19e siècle. Donc, elle a fondé ce champ et en quelque sorte ouvert la question de la cause arménienne dans le public et parmi les intellectuels français par la publication d'un article absolument pionnier qui a été publié dans la revue Esprit, revue qui avait une tendance chrétienne de gauche comme vous le savez, donc paru en 1967 au moment du 52e anniversaire du génocide arménien de 1915, à un moment où la fameuse justement question arménienne n'est connu de personne. Et de plus, et ça c'est elle qui m'en parlait extrêmement souvent, ou de plus, cette question n'intéressait pas les intellectuels, et singulièrement les intellectuels de gauche, comme par exemple Jean-Paul Sartre, avec qui elle avait une entrevue qui s'était pas très bien déroulée.
Rappelons un petit peu la période, nous sommes dans les années 60, en pleine guerre froide, et elle fait un voyage en Arménie soviétique.
Nous faisons un voyage familial. Alors moi, je suis très jeune à l'époque, et un voyage familial avec mes frères, mon père, etc. On se rend en Arménie soviétique, donc en 1966 en effet, à un moment où, le moment de après l'ère Khrouchtchevienne, effectivement l'Union soviétique s'ouvrait au tourisme extérieur, et donc où les gens, les Arméniens de la diaspora étaient finalement intéressés par ce grand voyage qui n'était pas de simple tourisme, comme vous vous en doutez. Donc c'est en effet après le retour de ce premier voyage qu'elle reproduira par la suite seule, mais dans des conditions spartiates dans les années 70. Mais donc c'est au retour de ce voyage qu'elle écrit ce grand article, parce que l'article de la revue Esprit de 1967 est un article qui s'étend sur plus d'une quarantaine de pages. Donc la question arménienne, et donc comme je le disais tout à l'heure, elle a tenté d'approcher, je crois, à l'époque, plusieurs éditeurs. Donc Jean-Paul Sartre n'en a pas voulu. Mais je pense ne pas me tromper lorsque j'affirme dans la préface que c'est sans doute grâce à son maître, celui qu'elle appelait mon vieux maître Henri Irénée Maroux, que vous connaissez certainement, Sébastien, qui était cet historien spécialiste de l'Antiquité tardive, et qui auquel elle vouait un véritable culte, et sous la direction duquel elle avait écrit un mémoire de maîtrise sur les fameux policiens, cette secte hérétique du 7e siècle après Jésus-Christ, à propos desquels, je crois, vous aviez fait une émission
nous
ensemble.
Nous avions fait une émission sur l'histoire des policiers, et c'est l'un des souvenirs les plus mémorables de sa venue à notre micro, oui.
Voilà, donc en théorie, si Anaïde, ma mère, avait poursuivi son parcours, son inclination, son goût pour l'histoire médiévale, pour l'histoire des chrétiens d'Orient et de leurs hérésies, pour l'histoire médiévale, elle aurait dû rester médiéviste. Mais les choses ne se sont pas produites ainsi. Et donc, elle s'est engagée finalement d'une toute autre manière en faveur de l'histoire arménienne, et en se tournant, pour le coup, vers la période contemporaine, non plus vers des sectes, mais presque des sectes, c'est-à-dire vers l'histoire contemporaine des partis révolutionnaires arméniens, et en particulier du parti d'Ashlink.
Alors c'est une découverte fascinante que l'on retrouve dans ses chroniques, donc je rappelle le titre du livre, Anaïde, chronique d'une voix libre aux éditions Tadé, c'est la vitalité des courants qui traversent la diaspora arménienne. Alors il y a la diaspora arménienne en Europe occidentale, en France, mais il y a celle aussi aux États-Unis, chacun avec leurs courants spécifiques. Et ce qui est fascinant, c'est de découvrir la division de cette communauté. Je ne crois pas qu'on sous-estime la cause arménienne en parlant de division. Il faut, et vous l'affrontez de manière très courageuse aussi. On le sent d'ailleurs entre votre préface et la postface de l'éditeur, qui montre justement que vous n'étiez pas tout le temps d'accord sur les mêmes idées. Une période très idéologique aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu les débats de l'époque, donc les années 60, 70, 80?
Oui. Alors, les divisions de la communauté arménienne de France aux États-Unis, il y avait les divisions classiques qui voyaient s'affronter les Tachnak considérés comme nationalistes, et puis toute la galaxie dite libérale pro-soviétique, bon, avec différentes nuances, enfin disons des gens qui étaient plutôt pour l'ordre établi et plutôt en faveur de l'Arménie soviétique. Ça, c'était des divisions classiques qui existaient dans la diaspora, dès lors que cette diaspora était une communauté d'exilés qui vivait en dehors du territoire de l'URSS. Mais évidemment, lorsque la question arménienne a commencé à faire une entrée fracassante, cette fois-ci dans le champ politique français, c'est-à-dire quelques années après la publication de ce fameux article de 1967, à partir donc du milieu des années 70. Donc on rentre à ce moment-là dans la dite fameuse décennie décennie du terrorisme arménien qui s'étend de 1975 à 1985, où là, les attentats se multiplient contre attentats aveugles ou attentats contre des diplomates turcs, et où se révèlent cette fois-ci d'autres divisions qui ne sont à la fois endogènes et surtout exogènes, et qui sont le reflet de ce qui se passe alors au Liban. C'est en fait une répercussion aussi des divisions de la société libanaise, mais encore plus de la communauté arménienne du Liban, qui sont en quelque sorte exportées et reflétées dans les différents courants qui existent à ce moment-là. Donc le courant d'Ashnak, vu cette fois-ci comme conservateur, mais soutenant un groupe qui s'appelle le Commando des Justiciers du Génocide Arménien, tandis que de l'autre côté, d'autres courants extrêmement radicaux et alliés à la gauche marxiste palestinienne sont représentés par exemple par la Salah, l'armée secrète de libération de l'Arménie. Donc ici, on rentre de plein pied dans de nouvelles divisions extrêmement frontales, et ça constitue le contexte général de l'époque des émissions de Radio Forum au tout début des années 1980-1982. On tombe en plein dedans.
Gérard Chalian parle à l'époque de terrorisme publicitaire. Il a été accusé justement par cette définition. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'Anaïde avait réagi à l'époque par rapport à ces débats?
Publicitaire, bon, c'était un terme pour pointer le fait que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on ne connaît les causes qui n'ont qu'une existence retentissante dans la chronique des événements quotidiens. Donc effectivement, les premiers attentats, et puis lorsque ces attentats sont devenus de plus en plus massifs, un peu plus tard l'attentat d'Orly, etc., tout à coup, la société française de l'époque, et même la société occidentale, et même également aux États-Unis, a découvert en quelque sorte la question arménienne. C'est essentiellement cela qu'il voulait dire, terrorisme publicitaire, c'est-à-dire publicitaire en ce sens qu'il a amené dans le champ des préoccupations publiques, une préoccupation en faveur des Arméniens qui était totalement inexistante auparavant.
Tallinn Termination, vous êtes une spécialiste de l'espace post-soviétique. Vous vous intéressez au Caucase et à l'Arménie particulièrement depuis la chute de l'Empire soviétique. Et ce que nous découvrons dans les chroniques et les revues de presse de votre mère à l'époque, rappelons la période 1981-1982, c'est la réalité de la cause arménienne, mais surtout de l'identité arménienne, de l'entité, une sorte d'arménité, à un moment où plus personne ne peut aller sur le territoire des origines, que ce soit l'Anatolie, que ce soit le Caucase soviétique. Et comment vous avez réussi à interpréter cette vision qu'elle a eue, cette espèce de vision prophétique d'une certaine manière, cet article de 1967, sur le fait que la vie en diaspora allait peut-être être la fin aussi de la cause arménienne?
Alors, c'était la grande inquiétude de l'époque. C'est vrai que on entendait cette préoccupation était constante dans les discussions familiales, etc. Donc, effectivement, il y avait ma mère était, et mes parents étaient des représentants de la seconde génération, c'est-à-dire des personnes qui étaient nées en France, mais de la première génération de ceux qui avaient fui le pays, quel qu'il soit, la Turquie, les anciennes marges de l'Empire russe, etc. Et donc pesait sur cette deuxième génération, à laquelle je n'appartiens pas, un poids absolument énorme, et ma mère en était tout à fait consciente. Donc lorsque tout à coup, effectivement, quelques années après la publication de l'article de la revue Esprit, lorsque on retentit l'écho des premiers attentats contre entre la Turquie et puis la venue de la question arménienne dans le champ des préoccupations des médias, ça a été une sorte de révolution, pourrait-on dire. Et donc moi, je ne l'ai pas interprété, je l'ai vécu, je le raconte dans la préface. Bon, j'étais évidemment assez jeune, puis j'étais donc jeune lycéenne. Enfin, tout ça, ça s'étend quand même sur plus d'une décennie. Et donc, c'était une époque à la fois grisante et en même temps extrêmement violente, extrêmement inquiétante. Je l'écris également noir sur blanc dans cette préface. Et donc c'est l'histoire de cet engagement que j'ai voulu restituer lorsque j'ai retrouvé dans les archives de ma mère ce dossier cartonné rouge où se trouvaient ces fameuses chroniques intégralement rédigées, qui sont donc une source extrêmement précieuse aussi d'ailleurs pour l'histoire des radios libres, car on sait que les radios libres n'ont pas laissé tellement de traces sonores et encore moins de traces écrites. Et donc c'est en reprenant, en écrivant, puisque ces chroniques étaient manuscrites, donc je les ai évidemment intégralement recopiées et éditées, en travaillant, disons, une petite année sur ce sujet-là, que j'ai commencé à prendre de la hauteur et à réaliser effectivement ce que ça pouvait représenter, comment elles pouvaient être facilement recontextualisées dans une époque qui était, du point de vue des relations internationales générales, une sorte de retour de guerre froide au niveau planétaire, donc retour de guerre froide, et en même temps, dans le champ de la communauté, une époque qui était vraiment le cœur de la décennie du terrorisme arménien.
L'Arménie traverse une période difficile, c'est un euphémisme de le dire. Vous y êtes allé il y a quelques semaines. Quel parallèle pouvez-vous faire entre le temps présent et la période décrite par votre mère dans ses chroniques des années 80?
C'est une époque, d'abord notre époque, je pense, notre époque, le grand chaos, le grand chaos international, l'écho des multiples guerres qui frappent le Moyen-Orient, la Méditerranée, le Caucase, etc. Cette époque chaotique, je pense, est justement née, enfin se comprend en tout cas, dans la continuité de ces années 80, puisque dans ces années 80 se produisent des événements absolument inouïs. Les chroniques le montrent bien. Nous sommes dans le contexte qui suit la chute de Saïgon en 75, mais surtout c'est la révolution iranienne, la révolution islamique en Iran, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, mais nul ne sait qu'au bout de quelques années, l'Union soviétique va s'effondrer, etc. Donc c'est une époque... Les années 80 sont une époque en quelque sorte matricielle d'où est sorti, à mon avis, le chaos planétaire d'aujourd'hui. Je pense que ça n'est pas exagéré d'employer ce terme. Alors, quant à la situation de l'Arménie dans le Caucase du Sud aujourd'hui, eh bien oui, l'Arménie est revenue, curieusement, au moins dans ses frontières et dans son territoire, elle est censée être revenue aux dimensions qu'elle avait à l'époque soviétique. Donc là, vous avez tout à fait raison. Et c'est déjà territorialement une situation assez semblable, même si, évidemment, à l'époque soviétique, la circulation était fluide puisqu'on était dans un grand empire. Et puis, le deuxième point commun que je vois, c'est-à-dire que je pense que le sort de l'Arménie aujourd'hui est suspendu aux mêmes arbitrages que ceux qui ont créé l'Union soviétique, c'est-à-dire l'arbitrage russo-turc qui a permis la naissance de ce territoire au sein d'un ensemble soviétique. Et là, aujourd'hui, elle semble également, cette Arménie, suspendue à un arbitrage dont on ne sait pas si ce sera celui des puissances régionales, donc je viens de les nommer Russie, Turquie, Iran, ou bien celui de l'Occident, comme en témoigne, par exemple, l'émission d'observation de l'UE déployée aux frontières de l'Arménie aujourd'hui. Donc on est dans une situation d'incertitude, selon moi.
Un pays de 3 millions d'habitants, ce qui est quand même assez peu par rapport justement à ces empires qui l'entourent.
Oui, mais où il y a de nouveaux migrants. des Russes, certes, donc depuis la guerre en Ukraine de février 2022, et puis surtout lors de mon dernier voyage, j'ai pu constater à quel point maintenant c'était la communauté de migrants indiens qui est la plus visible dans le paysage de Yerevan. Donc ce sont des migrants, de pauvres travailleurs migrants issus de l'État du Kerala et qui arrivent en Arménie pour à la recherche d'un emploi. Donc c'est assez curieux. Alors le pays était censé avoir un problème d'émigration et il a toujours ce problème d'émigration. Mais de l'autre côté, l'Arménie est en train, je ne saurais pas le démontrer avec des statistiques, mais semble-t-il attire des migrants venus de l'extérieur.
Un problème d'émigration, ça veut dire que les Arméniens, les jeunes Arméniens quittent le pays pour...
Ah bah ça fait depuis des années que ce phénomène d'émigration est absolument flagrant. C'est évidemment également le danger qui guette les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été chassés, vous le savez, de l'enclave du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan en 2023, l'an dernier. Et donc ces réfugiés du Haut-Karabakh qui sont maintenant encore en grande partie en Arménie sont peut-être susceptibles d'émigrer. On dit que beaucoup d'entre eux sont partis en Russie. Je ne saurais pas préciser les proportions. Et puis, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore choisi la citoyenneté arménienne au motif que leur passeport actuel leur donne un statut de réfugié qui pourrait peut-être leur ouvrir les voies de l'asile et donc les portes de la migration internationale. Donc tout ça, ça reste évidemment très indécis.
Taline Termination, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes Arméniens qui pourraient nous écouter de France et d'ailleurs pour le maintien et la continuité de leur culture ?
J'aurais à dire en rapport avec le livre que la radio, et vous n'allez pas me dire le contraire Sébastien, que la radio est un média absolument formidable. La radio pratiquée sous toutes les formes, que ce soit à l'antenne des radios d'État, mais aussi, comme à l'époque, les radios libres. Mais aujourd'hui, ces formes-là sont beaucoup plus fluides, avec Internet, etc. On peut pratiquer cette forme de communication de manière, à la fois libre et en tentant de se professionnaliser. Et personnellement, j'aime beaucoup ce média-là. Ma mère, Anaïde, a adoré devenir une femme de radio. C'est d'ailleurs le thème principal de la préface, c'est-à-dire cette façon de s'exprimer à un micro, etc. Et donc, Radio Forum a été une expérience fondatrice. Vous le savez, ensuite, après la fin de Radio Forum, en 1982, elle est devenue plus, entre guillemets, professionnelle, puisqu'elle venait participer aux émissions de Panorama avec Michel Bidlowski, et puis ensuite, elle vous a rencontré, vous, Sébastien. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ce que je dirais aux jeunes, c'est de s'intéresser à l'histoire et à la pratique de la radio.
Taline Termination, je vous remercie infiniment pour ce livre et votre venue, Chronique d'une voix libre, Anaïde, Radio Forum 1980-1982. Je rappelle les éditions TAD. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Benjamin Vignal pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant avec Solae. Bon dimanche.